Réplique, Emmanuel Lévinas et les préoccupations de l'heure, avec Dan Arbib et François-David Seba. La valeur d'une vraie philosophie ne se place pas dans une éternité impersonnelle. Sa face lumineuse est tournée vers les êtres temporels que nous sommes. Sa sollicitude pour nos angoisses fait partie de sa divine essence. L'aspect véritablement philosophique d'une philosophie se mesure à son actualité. Le plus pur hommage qu'on puisse lui rendre consiste à la mêler aux préoccupations de l'heure, écrivait Lévinas à propos de Maïmonide. Et il se trouve que, longtemps confidentielle, sa propre philosophie occupe une place de plus en plus importante dans l'espace public. Elle est mêlée aux préoccupations de l'heure, comme on vient encore de le voir avec la crise des réfugiés. Cette mise en situation est-elle un hommage ou une facilité, voire une trahison ? En quoi la lecture de Totalité infinie, d'Humanisme de l'autre homme, d'Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, nous permet-elle de nous orienter dans le monde ? Ce sont les questions que j'aborderai aujourd'hui avec deux philosophes qui sont aussi des lecteurs particulièrement subtils de Lévinas, Dan Arbib et François-David Seba. Et nous commencerons par l'autre, dans le couple immémorial du même et de l'autre, la philosophie contemporaine donne l'avantage à ce dernier. Un renversement s'est même opéré dans la pensée depuis la deuxième moitié du XXe siècle. On est passé du primat du même au primat de l'autre. Et si Lévinas est présent dans l'actualité, s'il est invoqué, cité, sollicité presque à tout bout de champ, c'est en tant que philosophe par excellence de l'altérité. Alors, essayons d'être précis. Que signifie l'autre sous la plume d'Emmanuel Lévinas, Dan Arbib ?
C'est assez difficile de répondre à cette question, parce que, par définition, si je puis dire, on ne peut pas définir l'autre. Dès l'instant que je donnerai une définition de l'autre, que je dirai qui il est, dès l'instant que je l'assigne à une essence, à une identité, l'autre devient ce que je constitue, ce qui est dans mon horizon, ce qui, donc, a le même statut que cette bouteille d'eau, ce livre, ce cahier, ou n'importe quel objet du monde. Et par conséquent, vouloir penser autrui comme tel, c'est véritablement le penser d'abord comme au-delà de tout horizon du monde possible, de tous les objets du monde. En sorte que l'autre, c'est d'abord le hors-monde, si je puis dire. Je renvoie là-dessus, d'ailleurs, aux premières pages de Totalité infinie. Il le dit très très bien. Aucun voyage, aucun changement de climat et de décor ne saurait satisfaire le désir qui y tend, le désir qui tend vers l'autre. Donc l'autre n'apparaît pas, simplement n'est pas la figure exotique de quelqu'un qui aurait une identité ou des papiers différents des miens. Il est ce qui est radicalement hors du monde ou hors de mon horizon. La question qu'on peut évidemment poser à cette figure, c'est dès l'instant que je ne peux pas décider qui est l'autre, ou plutôt l'autre est ce dont je ne décide pas, comment l'autre peut-il apparaître quand même dans l'horizon du monde ? Alors à partir de là, Lévinas décrira cette apparition très paradoxale sous le concept de visage. Et le visage est vraiment le nom de cette phénoménalité paradoxale, cette apparition paradoxale. Donc répondre à la question « qui est l'autre ?», ça suppose d'abord de se démettre de la capacité d'y répondre. Mais ça suppose aussi d'accepter de ne pas figer l'altérité dans une identité différente, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait d'un autre pays. Ce n'est pas un exotisme, ce n'est pas une nationalité différente. L'autre, c'est vous, c'est n'importe quel autrui en face de moi, en tant qu'il brise le monde auquel j'appartiens et que je définis.
Alors, je citerai justement « Totalité infinie » pour mieux faire comprendre ce que Lévinas entend par « visage ». La manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi, nous l'appelons visage. Le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse. Voilà, c'était pour aller dans le sens de ce que vous dites. François-David Sebat.
Dan Arbib a dit beaucoup. Effectivement, et pour aller dans le même sens, peut-être en regardant les choses sous un autre angle, effectivement, l'autre, chez Lévinas, il est difficile de l'aborder à partir de la question « que signifie l'autre ?» Parce que, comme il a été dit, l'autre est ce qui déborde toute signification. C'est plutôt l'origine de la signification. Le fait qu'il y ait du sens dans le monde pour moi me vient depuis l'épreuve de l'autre. Et de ce point de vue, Lévinas est à la fois une grande philosophie qui, à un niveau métaphysique, veut libérer l'autre, si je puis dire, du statut qui en fait l'autre comme catégorie, hein, puisque bon, c'est un philosophe, donc il y a la catégorie de l'autre, et la catégorie de l'autre, elle est domestique, elle est interne au même dans toute la tradition philosophique, pour faire des grands raccourcis, mais comme aime faire Lévinas, et il a raison, parce qu'on a le droit aussi de faire comme ça, et il faut un tout autre, qui ne soit pas domestique à l'ordre du même, qui ne soit pas l'outil du déploiement du même. Mais tout ça, c'est pas d'abord une histoire dans la philosophie. Tout ça, c'est une épreuve et une expérience. C'est l'épreuve et l'expérience du visage de l'autre. Et c'est pourquoi il est important que le visage ne soit pas simplement un mot ou une métaphore pour dire autrui. Il y va avec le visage d'une épreuve qui est tout à fait éprouvante pour
oui,
le sujet qu'il
est. Je crois que c'est très important ce terme d'épreuve. Que vous utilisez. Alors, il est vrai que Lévinas se situe en opposition avec la tradition philosophique, vous venez de dire. Il dit la philosophie occidentale coïncide avec le dévoilement de l'autre, où l'autre, en se manifestant comme être, perd son altérité. Et il ajoute, la philosophie est atteinte depuis son enfance d'une horreur de l'autre qui demeure autre, d'une insurmontable allergie. Mais, en même temps, il nous décrit face à cette allergie, quelque chose qui relève de l'épreuve, donc, d'une certaine manière, de l'expérience. Ce moment de passage qui arrive à chacun. Le virement du pour-soi en pour-autrui. C'est un philosophe du désintéressement, Lévinas, mais ce désintéressement n'est pas une vertu, une qualité. Lévinas ne prêche pas. Son registre est narratif, descriptif. Il raconte en guise d'éthique, même de philosophie, éthique comme philosophie première, une intrigue, une aventure involontaire, un détournement du droit chemin. L'individu va qu'à ses affaires, il suit la pente ou la voie que lui trace son intérêt, son ambition, ses convoitises, et patatras, le voici dérouté, malgré lui, pour un autre, et c'est la rencontre du visage qui opère ce renversement. Un visage, en effet, qui n'est pas assignable à un certain, pas définissable, donc qui s'abstrait, qui s'absout de sa forme, il est nu en ce sens, mais nu aussi du fait de son dénuement. Il se présente dans une pauvreté poignante, il est hors de portée, puisqu'on ne peut pas le définir, mais il est en même temps à bout portant, l'insaisissable et le sans défense. Et c'est quand même le charme extraordinaire de cette philosophie, que précisément, et c'est pour ça que je réagis à ce terme d'épreuve, de nous raconter la rencontre de l'autre comme une histoire, et comme une histoire qui nous est toujours déjà arrivée, et qui peut nous arriver, au fond, à chaque moment de notre vie.
Ce qui est très important là, en effet, c'est que c'est une philosophie forcément en première personne. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui ne prend pas de surplomb sur l'autre, et c'est bien cela qu'il reproche à la tradition philosophique, c'est qu'en prenant du surplomb sur l'autre, ou sur le couple, le même et l'autre, l'altérité de l'autre est toujours déjà défaite. Elle est toujours déjà réglée, en quelque sorte, et ramenée à la domestication, pour employer un terme que François-David a employé tout à l'heure. Par conséquent, si l'autre est l'autre, à partir de ce que moi je vis, à partir de cette focalisation interne, l'autre ne peut se donner que comme une expérience, mais une expérience éminemment paradoxale, puisque la plupart du temps, ce dont je fais l'expérience, c'est ce qui est dans le monde, les objets du monde, et puis tout d'un coup, quelque chose vient bouleverser mon expérience, et par conséquent, quelque chose qui ne se range pas parmi la totalité des phénomènes. Et c'est pourquoi le visage est sans forme. Parce que ce que j'ai autour de moi, les objets du monde ont une forme. Ceux-là, je les assigne à une place définie. Je vous rappelle que la forme aussi, dans la tradition philosophique, c'est l'essence. Donc c'est l'identité, c'est l'être que moi j'impose aux choses. Donc le visage ici est sans forme parce que tout d'un coup quelque chose vient craquer en quelque sorte. Et c'est en ce sens que c'est une épreuve qui est subjective parce qu'elle est vécue en première personne, et c'est une épreuve aussi douloureuse, et douloureuse pour moi, parce que quelque chose est bouleversé. Il y avait l'arrangement de l'être initial, et puis il y a maintenant le dérangement. Je suis complètement... Enfin, tout est mis sans dessus-dessous par l'apparition de l'autre dans mon univers. Et c'est pourquoi c'est un phénomène tout à fait paradoxal. C'est à la fois hors de mon champ d'expérience, et en même temps dans mon champ d'expérience. Et ça se vit en première personne comme le bouleversement. Et donc, à ce moment-là, le virage, en effet, du pour moi en pour autrui.
Mais il se passe quelque chose en soi. C'est-à-dire, c'est l'idée que le « tu ne tueras point » naît du face-à-face de cette révélation.
Et c'est tout à fait involontaire. De l'autre. Et c'est tout à fait involontaire. Dans le passage que vous avez cité, il y avait ce mot involontaire. Parce que dans la tradition philosophique, la volonté, c'est ma volonté. Voilà. C'est ce dont je décide. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose dont je ne décide pas et qui en décide pour moi, en quelque sorte.
Et donc là. D'où ce renversement aussi par rapport à Platon. Platon, nul n'est méchant volontairement. Lévinas, c'est nul n'est bon volontairement, en quelque sorte. Puisque tout ça, quand même, le visage m'interdit d'envahir la réalité comme une force qui va. Quelque chose m'est arrivé, mais je suis brutalement réveillé, dit Lévinas, de ma spontanéité de somnambule. Phrase qui revient souvent, je suis dégrisé de moi-même, mais ça, c'est encore une fois de l'ordre de l'événement et pas,
absolument.
Et pas de la décision.
Absolument. Mais c'est proprement le témoignage. Quand je suis témoin d'un accident, c'est un événement qui arrive, dont je ne décide pas, on vient me chercher pour témoigner, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie, mais je suis bien là et j'étais là et je n'y peux rien, et tant pis, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que je suis devenu témoin à ce moment-là.
François-David Sebard, vous voulez que je...
Oh ben je souscris à ce qui a été dit complètement. J'insisterai peut-être juste sur effectivement l'idée qu'il s'agit d'une épreuve traumatique et que ce qui est en jeu, c'est effectivement une expérience, mais une expérience qui en est à peine une, puisqu'on vient de le dire, ça ne peut pas être mon expérience. Je n'en suis pas maître jamais, ni comme volonté, puisque je surgis absolument passivement comme requis par cette... injonction traumatique qui vient du visage de l'autre et qui vient de manière extrêmement paradoxale parce que, et de plus en plus pour Lévinas, tout au long de son itinéraire, autrui c'est la nudité que vous signaliez et perceptivement ça se dit comme ce visage qui excède sa propre forme, etc. Cette nudité, c'est la vulnérabilité parce qu'au fond, le registre premier, c'est le registre éthique, c'est la vulnérabilité même. Il y a qu'autrui qu'on peut avoir envie de tuer. Hein. Si autrui, c'est tu ne tueras pas, c'est parce que autrui, il n'y a qu'autrui que je peux avoir envie de tuer. Et c'est comme ça qu'il surgit. Et parce qu'il me révèle aussi comme cette pulsion meurtrière qui l'interdit, le visage d'autrui, et qu'il y a ce renversement qui fait qu'au bout du compte, la plus grande vulnérabilité se retourne et se montre et s'impose à moi comme le commandement de me désarmer, me révélant comme n'étant à la fois rien d'autre que cette passivité qui se montre dans en étant recueilli, ce témoin, et en même temps, toujours, ce Conatus guerrier qui va et qui rapporte les choses à lui. Voilà, donc c'est
oui, donc une intrigue très compliquée. Il se perd un retournement du Conatus en me voici, la subjectivité surgit comme me voici, face justement au commandement, à l'autorité désarmée du visage. Mais alors, venons-en, et peut-être un peu, ça nous aidera à approfondir aussi notre connaissance de Lévinas, venons-en aux préoccupations de l'heure. Je le disais dans ma présentation, Lévinas est sollicité, invoqué, et il a été très récemment, dans des articles de Marc Répond, de François Cusset, à propos de la crise des réfugiés. L'autre, a-t-on dit, l'autre a surgi dans sa vulnérabilité, et il nous enjoint de faire quelque chose pour lui. Il vient secouer notre léthargie et donc on s'appuie sur Lévinas pour réclamer de l'Europe un effort d'hospitalité, comme si l'Europe tout entière devenait le sujet lévinasien confronté à l'épreuve traumatique de l'altérité. Ça s'est dit. Hein. Alors, est-ce que vous reprenez à votre compte cette lecture qui se veut lévinassienne de l'actualité immédiate d'Anne Arbib?
Alors écoutez, c'est difficile. La première raison, c'est un paradoxe, c'est que Lévinas a beau dire que le plus bel hommage qu'on puisse rendre à une philosophie, c'est de la mobiliser pour éclairer les préoccupations de l'heure, lui-même s'est très peu, je crois, investi en première personne dans les débats du moment et dans les débats politiques de son temps. Ses interventions sont plutôt discrètes. Donc ça, c'est un premier point. Il n'est pas intervenu lui-même dans des questions décisives, et Dieu sait pourtant s'il y en avait à l'époque. Le deuxième point, c'est que sa philosophie n'est pas et ne doit pas être prise comme une éthique appliquée, c'est-à-dire comme une éthique qui se demanderait directement ce qu'il convient de faire maintenant tout de suite devant les problèmes devant lesquels nous sommes placés. C'est d'abord une analyse philosophique de ce que c'est que l'altérité, ce que c'est que même être un soi, puisque la question initiale de Lévinas, je le rappelle, c'est d'abord qu'est-ce qu'être un sujet ? Et la réponse qu'il donne, c'est être un sujet, c'est être responsable pour autrui. Donc ce sont des questions qui sont éminemment philosophiques. Donc il n'avait pas pour ambition de répondre immédiatement aux préoccupations de l'heure, même si, et un bémol à ce que je dis doit être mis, la Shoah est un événement bouleversant, et c'est aussi l'un des points de départ de la philosophie de Lévinas. Maintenant, s'il s'agissait de mêler cette philosophie aux préoccupations de l'heure, sans donner moi-même mon avis de citoyen qui ne serait pas plus autorisé que celui de quiconque, je dirais que la force de Lévinas, c'est de montrer, d'une part, que l'apparition d'autrui est immédiatement éthique, c'est-à-dire appelle immédiatement à la responsabilité infinie et à l'hospitalité infinie, mais d'autre part que dès le visage apparaît immédiatement l'autre, c'est-à-dire la dimension politique, c'est-à-dire la dimension de justice, c'est-à-dire la dimension de sagesse et de tempérance, la dimension grecque.
Parce que dans le visage, il dit, il y a aussi le tiers.
Il y a immédiatement le tiers, non pas qu'il y ait d'abord visage et qu'ensuite l'être qu'il manifeste ou exprime ce souci de justice. L'épiphanie du visage comme visage ouvre l'humanité, c'est-à-dire ouvre immédiatement à la justice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éthique qui ne se trahisse si elle ne se fait politique, c'est-à-dire calcul, c'est-à-dire rationalité. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de politique qui définisse son plan d'immanence propre, c'est-à-dire de politique détachée d'une habitation toujours éthique.
Oui, alors justement, là, je vais lire un passage d'Autre Manquette au-delà des sens pour illustrer votre propos avant de donner la parole à François-David Sebat. La responsabilité pour l'autre est une immédiateté antérieure à la question. Elle est proximité, elle ne fait pas problème, en quelque sorte, mais elle est troublée et se fait problème dès l'entrée du tiers. Le tiers est autre que le prochain, mais aussi un autre prochain, mais aussi un prochain de l'autre, et non pas simplement mon semblable. Que sont-ils donc l'autre et le tiers, l'un pour l'autre ? Qu'ont-ils fait l'un à l'autre ? Lequel passe avant l'autre ? L'autre, etc., etc. Et toutes ces questions conduisent Lévinas à refonder, précisément, la politique, l'exigence de justice et même la philosophie, puisqu'il renverse le sens traditionnel, ce n'est pas tant l'amour de la sagesse que la sagesse de l'amour. Il faut de la sagesse à l'amour, de la tempérance même à la responsabilité infinie, précisément parce qu'il y a le tiers. Or, en effet, avec la vision que l'on veut donner de la crise des réfugiés, on crée un drame à deux personnages qui deviennent, en l'occurrence en plus, des entités collectives, nous-mêmes, comme sujets responsables, et l'autre, qui est, lui, cette grande entité de tous ceux qui, dans leur dénuement, arrivent chez nous et nous demandent l'hospitalité. François-David Sebat.
Oui, alors, la question, effectivement, est très délicate et... Pour rebondir sur ce que disait Dan Arbib tout à l'heure, effectivement, Lévinas, enfin, la pensée de Lévinas ne s'inscrit absolument pas dans le partage entre une méta-éthique d'un côté et des éthiques appliquées de l'autre, comme si des grandes questions fondamentales d'éthique étaient traitées et qu'il ne s'agissait de les appliquer dans des domaines donnés. Mais, on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il faut y insister, éthique, au fond, c'est la description d'une expérience qui est plus ou moins qu'une expérience, qui est une épreuve, cette épreuve traumatique dont on a parlé tout à l'heure. Alors, moi, de manière extrêmement, peut-être un peu trop décevante, mais je tiens à cette déception, parce qu'en fait, elle peut être en même temps féconde. Moi, je trouve que, effectivement, mobiliser Lévinas, alors le mobiliser de manière un peu superficielle sur le mode « il faut aimer accueillir tous les autres », bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il y a une pensée beaucoup plus rigoureuse de, disons, l'hospitalité inconditionnelle. Hein, si je suis dans l'hospitalité, ça doit être de manière inconditionnel, ou alors je ne suis pas dans l'hospitalité, ce qui produit un nombre de paradoxes extrêmement importants, de tensions. Alors moi, je préfère prendre les choses par un autre bout et entendre dans Lévinas ceci. C'est effectivement la description de l'expérience subjective de ce que je suis, ce que chacun d'entre nous est. Et cette expérience ou cette épreuve, elle est telle que, mot terrible, mais que personnellement j'assume avec Lévinas, l'être est le mal. Et être, c'est le mal. C'est terrible de dire ça. C'est très contestable, de plein de manières. Mais ça veut dire que, ce que vous disiez, être, c'est être un conatus, c'est s'installer dans l'être. C'est une place au soleil.
Conatus, et ça veut dire, comme persévérance dans l'être. L'être dans son être.
C'est le terme spinoziste. Voilà. Être, c'est continuer d'être. Et éventuellement, si c'est possible, accroître son être. Bon. Moi, je trouve que l'expérience du métro bondé, c'est une expérience métaphysique fondamentale et terrible, et ça renvoie vers une donne fondamentale de ce que nous sommes. Et donc, autre énoncé terrible dans Lévinas, je suis responsable pour l'autre, je suis d'abord responsable pour l'autre, mais être responsable, c'est être coupable. Lévinas écrit toujours responsable ou coupable. Il traduit le russe indifféremment par coupable ou responsable. Et si vous voulez, plutôt que la revendication de l'accueil inconditionnel qui pose tellement de problèmes, parce que de manière assez concrète, on rappellera, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Donc, bon,
même s'il faut y prendre sa part, la célèbre phrase de Michel Ancard.
Voilà, c'est ça. Plutôt que d'aller dans ce sens-là, tangentiellement, effectivement, on risque d'être pris dans une position un petit peu de belle âme, parce qu'on peut le déclarer, mais que faisons-nous? J'aime autant me souvenir de ça. Nous sommes terribles, nous sommes coupables d'être. Et chaque fois qu'un autre concrètement se présente, je dois savoir que ma place, c'est ma place au soleil, et que d'un certain point de vue, je l'ai usurpée. Même si le même Lévinas nous dit qu'il est tout à fait légitime de manger son pain et de boire et d'être heureux. Les deux sont vrais. Il est légitime d'être heureux, c'est-à-dire d'être là et d'exister au soleil. Et en même temps, eh bien oui, j'ai cette place, un autre ne l'occupe pas. Alors, avoir ça en tête, c'est très modeste, mais avoir ça en tête, je ne dis pas que ça nous dit ce qu'il faut faire et ce que ça dit au gouvernement de faire pour une politique européenne, mais ça doit être toujours constamment présent.
Moi, il me semble, évidemment, je souscris parfaitement à ce que vient de dire François-David Seba, mais il me semble que le débat tel qu'il est posé, par exemple, aujourd'hui, fausse un petit peu les données du problème. D'un côté, on a l'éthique qui serait une ouverture inconditionnelle, inconditionnée, une hospitalité complète et totale. D'un autre côté, on a l'ordre propre de la politique qui impose une réelle politique cynique, désengagée de toute éthique. La force de Lévinas, c'est de montrer que l'amour se trahit lui-même et se fausse s'il ne se tempère pas. Autrement dit, que l'éthique se tourne contre elle-même et cesse d'être éthique si elle ne devient pas une politique. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des générosités qui font beaucoup de mal. D'un autre côté, cela signifie aussi qu'une politique qui serait cynique et qui serait, disons, installée sur son ordre propre à la Machiavel, n'aurait elle aussi plus de sens. Il faut qu'elle soit habitée par l'éthique. Et alors, la question c'est, quel trajet on fait? Il y a quand même, il est vrai, des lectures qui s'arrêtent en chemin chez Lévinas et qui s'arrêtent à l'hospitalité du pour autrui inconditionnel et qui ne voient pas que Lévinas parle ensuite du visage en disant bien que le visage, enfin du tiers pardon, que le tiers est déjà là dans le visage et qu'il faut bien qu'un livre épouse des moments descriptifs mais qu'au fond, il s'agit quand même d'une même présence. Donc en définitive, il nous laisse devant cette aporie, il nous permet quand même de la poser, mais je ne sais pas s'il nous permet de la résoudre.
Alors, j'en reste un instant à ce problème actuel de l'hospitalité, parce que nous avons tous été, sinon traumatisés, pour reprendre votre terme, François-David Seba, du moins authentiquement bouleversés par l'image du petit Aylan. Et cette image, justement, si vous voulez, pourquoi nous a-t-elle bouleversés ? Eh bien, c'est peut-être en termes lévinassiens qu'on peut traduire cette émotion, puisque ce n'était pas simplement une image. C'était une interpellation. Et là, on retrouve la définition du visage. Le visage où autrui se tourne vers moi ne se résorbe pas dans la représentation du visage. Entendre la misère qui crie justice ne consiste pas à se représenter une image, mais à se poser comme responsable. C'est exactement ce qu'on a entendu. La misère qui crie justice. Alors certes, le visage n'était pas tourné vers nous, puisque ce pauvre petit enfant avait le visage collé contre le sable de la plage, mais son corps tout entier était visage en ce sens. Et donc on s'est dit, il fallait répondre à cette interpellation. Mais d'un autre côté, il y a un lévinassisme qui me met très mal à l'aise, parce que l'expérience du visage, c'est toujours l'autre en tant qu'individu. Et là, une catégorie a surgi, tout d'un coup, une immense entité collective, l'autre. L'autre qu'il fallait savoir accueillir. Et donc, l'expérience de la pluralité disparaissait dans ce qui a été dit. Et tous les problèmes même que la pluralité pouvait susciter. Donc, on s'est adossé à Lévinas pour évacuer en quelque sorte la problématicité, alors même que sa pensée fonde, justement, nous rappelle que la morale est aussi un casse-tête, que ce n'est pas si simple que ça, puisque précisément, nous ne sommes pas deux. Il y a toujours la question de la pluralité humaine. Donc vous voyez, j'ai compris la lecture lévinassienne de cette crise, et en même temps, j'ai trouvé qu'au nom de Lévinas, on succombait peut-être un peu à la facilité d'Ann Arbib.
Cette photo d'Aylan était vraiment, si je puis dire, très suggestive d'un point de vue lévinassien, pour au moins trois raisons. La première, c'est que nous étions en effet devant un individu, un visage, et la question des migrants ou des réfugiés en général prenait ici une incarnation, une singularité toute nouvelle, et c'est pourquoi elle a été si traumatisante. Et l'expérience du visage est toujours l'expérience de celui que j'ai en face de moi, d'un individu, d'un singulier. D'un singulier plutôt que d'un individu, puisque justement Lévinas ne donne pas de trait d'individuation au visage, ce qui fait que ça n'est jamais personne en particulier, on ne sait pas qui c'est précisément, ça n'est pas quelqu'un qui porte un nom commun. Le deuxième point, c'est qu'en effet, c'était la photo d'un enfant. Et l'enfant conjugue tous les paradoxes du visage, c'est à la fois la plus grande précarité, la plus grande fragilité, et en même temps, l'ordre qui nous est intimé, de prendre soin de lui. Donc c'est le propre du visage que de se nourrir de, enfin que d'imposer ce paradoxe. Je suis très fragile et je te commande. Donc je ne te commande pas par la force, je te commande par ma fragilité même. Dans la tradition, disons spinoziste, un conatus est vaincu par un autre conatus. Mais là, je suis vaincu par un non-conatus, par un anti-conatus. Et donc l'enfant, c'était vraiment le visage lui-même. Et troisième point, c'est que ça nous a permis dans le débat de passer véritablement de l'un à la problématique du tous. Puisque derrière Aylan, quand même, perçait tous les autres, tout de même. C'est-à-dire qu'à partir de là, la question des réfugiés s'est posée dans son ensemble. Et donc, d'un côté, la question de tous les réfugiés s'est incarnée dans la figure singulière et individuelle du petit Aylan, mais en même temps, à travers Aylan, retour en quelque sorte, on a pu poser la question, en général, des migrants. C'est en ce sens qu'elle fait l'objet d'une... Elle peut faire l'objet d'une analyse lévinassienne. Que faire ensuite ? On en reste à la porie. Je ne crois pas que Lévinas nous donne de recettes. Et ce serait trop simple, parce que sinon, la conscience morale disparaîtrait si on avait des choses, des recettes, si Lévinas nous disait ce qu'il faut faire.
François-David Seba, et j'aurais moi-même une...
Non, ce que j'ai entendu... Il y a mille choses à dire hein, autour de cette photo. J'ai entendu votre réticence ou inquiétude, parce que vous estimiez que... possiblement, on avait instruit à partir de la question posée de manière lévinassienne d'un rapport à un autrui concret, incarné. On avait construit éventuellement une figure abstraite d'un autre abstrait
et général. Un autre général.
Un autre général, ce qui effectivement n'est... Ce qui n'est pas la manière dont Lévinas instruit la question. Maintenant, toute la véritable question, quand on la prend dans sa difficulté, est celle-là. C'est comment faire en sorte... que non seulement l'épreuve éthique, qui est effectivement épreuve de face à face, concrète, comment faire en sorte que cette épreuve, qui est preuve démesurée, nous l'avons dit, hein, traumatique et démesurée, et jusqu'à cette définition paradoxale de l'ordre du juridique et du politique par Lévinas, comme non pas ce qui me limite la violence des uns et des autres pour les composer ensemble, mais ce qui limite l'infini de ma responsabilité pour autrui, hein, donc l'extravagante hypothèse, voilà.
Donc pour parler une extravagante hypothèse étudiée notamment par Miguel Abasso.
Par Miguel Abasso, exactement, tout à fait. Et donc toute la question, c'est comment trouver ce jeu, c'est-à-dire quand on passe à la pluralité, comment ne pas perdre ce qui se joue au niveau concret. Comment ne pas le perdre ? Parce que s'il y a du sens et de la signifiance dans la manière dont nous pourrons essayer de régler les problèmes collectifs qui nous arrivent, ce sera toujours depuis cette expérience-là. Comment ne pas la perdre là ? Et inversement, comment effectivement ne pas se donner ? Parce que là, on vire à la belle âme la facilité de tout instruire à un niveau de face à face de responsabilité éthique en évacuant la réalité des problèmes politiques. Et alors, c'est ce passage-là qui est tellement difficile à opérer.
Un passage qui a été analysé par un auteur qu'on n'a pas l'habitude de mettre en rapport avec Emmanuel Lévinas, un auteur qu'on connaît pour ses grandes antithèses, qui est Victor Hugo, figurez-vous, L'homme qui rit. J'ai déjà cité ce passage de L'homme qui rit. La complication de l'événement produit la perplexité de l'esprit. Le devoir donnant des ordres en sens inverse, le devoir de tous les côtés à la fois, le devoir multiple et presque contradictoire, L'homme qui rit avait eu cet effarement. Que le devoir ait des carrefours, c'est étrange. La responsabilité peut être un labyrinthe. C'est très exactement ce que nous dit Lévinas à travers la question du tiers. Mais je voudrais faire une objection non seulement à ce lévinasisme qui fait de l'autre une catégorie générale et qui esquive justement la problématicité, mais même à Lévinas en personne, à travers la crise des réfugiés. Il y a un paradoxe de la modernité, parce que la modernité, c'est la généralisation de l'idée, même du sentiment du semblable. Hein. L'humanité est une. Et Tocqueville l'analyse très bien, puisque à travers sa réflexion géniale sur la pitié, hein, on s'identifie à celui qui souffre, quel qu'il soit. C'est dans les siècles démocratiques, alors que dans les sociétés aristocratiques, on ne reconnaît son semblable que dans le membre de sa caste. Mais d'un autre côté, la modernité, c'est aussi la grande découverte des sciences humaines. L'humanité est une, mais elle est composée d'humanités distinctes. Il n'est aucune humanité qui n'appartienne à une culture. Or, Lévinas nous dit que l'autre, c'est l'homme absous à la fois de son identité, de sa similitude, et de sa différence. Il est dégagé de toute culture. C'est ça la nudité du visage. Hein, vous l'avez très bien montré d'un Arbib. Oui, mais alors il nous met dans l'impossibilité de penser une réalité à laquelle l'Europe sera confrontée de plus en plus, qui est précisément celle du choc des cultures. Si l'autre n'existe que par son dénuement, c'est une coquille vide. Le fait est que, justement, lorsque des gens venus d'un autre monde arrivent massivement dans notre monde, quelque chose se produit qui relève du choc des cultures. Donc, cette manière de penser l'altérité en faisant l'économie de la différence, si vous voulez, est-ce que elle ne nous affaiblit pas pour penser ce qui nous arrive par rapport justement aux préoccupations de l'heure d'un Arbib?
C'est une vraie difficulté et qui provient, me semble-t-il, du fait que le dénuement dont il est question n'est pas un dénuement empirique. C'est-à-dire que l'homme le plus riche en face de moi est un visage et par conséquent est dans un dénuement absolu. En sorte que la question de l'autre ne se pose pas en termes de identité ou bien différence des cultures. Il est en amont de cette différence, il est en amont de cette distinction, ou bien plutôt il est en deçà. C'est-à-dire que la force de Lévinas, c'est d'en être à un degré de radicalité des questions telles que, dans une certaine mesure, les questions elles-mêmes restent relativement indéterminées par rapport à ces descriptions. C'est-à-dire que le dénuement d'autrui n'est pas forcément le dénuement de l'immigré qui arrive très pauvre. Ça peut être aussi le dénuement de l'homme très riche, soit qui veut le rester, soit qui veut tout simplement que ses enfants ne soient pas au chômage. On peut tout simplement penser à cela, n'est-ce pas ? Et ça signifie donc qu'on ne peut pas traduire immédiatement les catégories d'une originarité et d'une radicalité exceptionnelle de Lévinas dans des concepts de politique immédiate, voire de sciences humaines immédiates. La différence, je l'ai dit, n'est pas réductible à celle qu'ont analysée ceux qui ont fait des sciences humaines ou bien les ethnologues. C'est pas une différence ethnologique, ça n'a, me semble-t-il, rigoureusement rien à voir. Et alors on peut dire qu'en effet, Lévinas, sur ce point, peut-être n'a rien à nous apporter.
Voilà.
C'est une objection qu'on peut lui faire. Mais, de toute façon, peut-être que la philosophie en général n'apporte rien à celui qui résout des problèmes politiques, à celui qui fait des mathématiques. Le mathématicien ne sait pas de philosophie, pourtant la philosophie fonde les mathématiques. Ça n'empêche pas le mathématicien de raisonner normalement et de continuer à raisonner sans rien savoir à la philosophie. Peut-être, après tout, que cette investigation n'est pas nécessaire et qu'elle n'a pas de réponse directe à nous apporter. Mais à tout le moins, peut-on justement demeurer réservé devant la captation de la philosophie de Lévinas par des forces qui restent de l'idéologie, même si ce sont des idéologies auxquelles on peut souscrire.
François-David Sebat.
Alors, je crois que j'ai bien entendu l'objection que vous formuliez et qui est, au fond, qui consiste à dire, au fond, cette autre... Enfin, l'objection que vous produisiez tout à l'heure par rapport à une caricature de Lévinas, vous la raffinez, vous oui. l'adressez à Lévinas lui-même.
Voilà. Bon.
Et vous dites, finalement, cet autre qui la radicalité de la pensée de l'autre ici, qui est que cet autre ne soit jamais assignable à une identité, au fond, ça peut aussi produire un autre abstrait, et on va parler de l'autre en général. Or, mêlons Lévinas aux préoccupations de l'heure, il y a des problèmes, le problème que vous avez qualifié dans les termes de choc des cultures, les autres sont toujours concrets. Bon, alors j'entends bien la question, et en même temps il me semble qu'il y a des chemins de traverse dans Lévinas lui-même qui nous permettent de voir les choses autrement. D'abord, n'oublions pas, enfin, je ne pense pas que Lévinas soit une pensée qui branche directement un singulier sur un universel qui, au fond, deviendrait formel ou abstrait. Ce n'est qu'en situation, qu'en concrétude. Et c'est aussi le penseur de l'être juif. Il a pensé une particularité, la particularité de l'être juif. Il a pensé ici un être en situation qui, en plus, est l'être en situation d'un groupe particulier. Et il l'a décrit. Bon. Alors, je nuancerai le tableau de ce point de vue-là et je reviens parce que finalement, au fond, moi, c'est une idée qui me tient à cœur dans Lévinas. Quand je dis le conatus, ce conatus, il a aussi, si je puis dire, c'est le mien. Et puis, il est effectivement pris dans des relations avec d'autres conatus qui font que, par exemple, il y a des groupes particuliers, des communautés qui se constituent. Je ne dis pas nécessairement en un sens très fort notion de communauté, mais on a des groupes d'appartenance.
Oui.
On est plus... On est plus avec les uns, plutôt avec les autres. On a des codes. Dès que quelques hommes sont ensemble, il y a des différences qui se produisent entre différents groupes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je crois que ce qui est dit à propos du conatus du mien, hein, de moi comme sujet, ça vaut pour les groupes aussi. Si chaque groupe sait que, au fond, sa place au soleil, elle est à la fois légitime et à la fois pas du tout, ça implique une politesse des groupes entre eux. Il faudrait que les communautés, quelles qu'elles soient, soient d'abord lévinasiennes en ce sens. Donc, vous voyez, je prends le problème par un autre biais.
Sur le plan, François-David, sur le plan où vous vous situez, c'est-à-dire le plan des conatus comparés, si je puis dire, on devra reconnaître que la politesse est plus facile à faire pour l'un que pour l'autre. Et par conséquent, il me semble que cette hypothèse-là ne tient pas tout à fait. Je veux dire qu'il est plus facile de faire une politesse quand on est possédant que quand on ne possède pas.
Bien sûr.
Et on ne peut pas reprocher à celui dont le conatus est affaibli de ne pas pouvoir faire la politesse. C'est pour ça que cette politesse ne me paraît pas se traduire immédiatement en termes politiques.
Et en même temps, ce qui vient de se passer en Allemagne, peut être analysé comme vient de le faire François-David Sebat, on peut souhaiter en effet une politesse réciproque des groupes, une civilité réciproque et de tous les groupes, même s'il y en a qui sont à un moment donné plus prospères que d'autres. Donc je trouve la réflexion de François-David Sebat très éclairante. Mais je voudrais en revenir à un autre problème de la pensée de Lévinas. que je lis depuis très longtemps et toujours avec la même fascination. Mais justement, je me demande si Lévinas ne charge pas trop un peu la barque de l'autre, si j'ose dire. Parce que on le lit, l'autre, c'est quand même... il n'a pas d'image, mais il apparaît sous diverses guises, sous diverses figures, qui sont peut-être contradictoires entre elles. Car l'autre, c'est l'aimer, par exemple. Hein. Il dit des choses sur l'amour que personne n'a dit aussi bien que lui. Hein. Ce qu'on appelle d'un terme un peu frelaté amour, et par excellence le fait que la mort de l'autre m'affecte plus que la mienne. Quel amoureux n'a pas senti exactement ça ? Et aussi, la relation de l'homme à l'autre est meilleure comme différence que comme unité. La socialité est meilleure que la fusion. Le pathétique de l'amour consiste dans une dualité insurmontable des êtres. C'est une relation avec ce qui se dérobe à jamais. Pensez la socialité comme indépendante de l'unité perdue. Voilà une description extraordinaire de la relation amoureuse. Mais l'autre, c'est aussi le maître, notamment dans Totalité Infinie. Insistant sur le fait que le visage n'est pas une image, il parle, il enseigne et introduit du nouveau dans la pensée. C'est l'extériorité qui accomplit la liberté au lieu de la blesser, l'extériorité du maître. L'autre n'est pas, pour la raison, un scandale qui la met en mouvement dialectique, mais le premier enseignement. Et enfin, l'autre, c'est la veuve et l'orphelin, le dénuement, le sans-défense, la vulnérabilité même. Est-ce qu'on peut conjuguer toutes ces, je sais pas comment dire, toutes ces qualités dans une même figure? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça, justement, ça ne heurte pas quand même l'expérience d'un Arbib?
Votre question est très difficile, et soit on y répondrait en une ou deux phrases, soit on y passerait toute l'émission. Il me semble néanmoins que c'est le propre de Lévinas de sortir de ses contradictions et de ses tensions. Je le rapprocherai sur ce point de Platon, parce que chez Platon aussi, l'autre c'est l'aimer, mais l'autre c'est aussi le maître. Et c'est aussi celui qui est dans le grand dénuement. Socrate conjugue ces trois figures, c'est-à-dire on apprend de celui qu'on aime, et celui qu'on aime n'est pas en posture de maîtrise, de possédant, si je puis dire, de maîtrise de pouvoir. Il n'est pas dans une posture de pouvoir. De la même façon, si je vais reprendre une autre position très non platonicienne et donc non lévinassienne, le rapprochement et la distance. L'autre, c'est celui dont je suis à la fois très distant, puisque justement il est transcendant, donc il est toujours au-delà, mais en même temps, il est très proche, puisque nous décrivons une situation de proximité. Et donc il y a des distances qui sont la façon propre d'approcher quelque chose. C'est ce que Platon appelle la pudeur. C'est-à-dire qu'il y a une façon tout à fait singulière de se rapprocher d'autrui par la distance. On peut être très proche de quelqu'un quand on continue de le vouvoyer, par exemple. C'est la proximité, disons, avec ses parents, dans certains cas, c'est-à-dire un amour mêlé de crainte, et les deux ne se contredisent pas, mais s'entretiennent, puisque c'est le mode propre dont se nourrit la proximité très particulière avec cette altérité, par exemple, parentale. De la même façon, donc, le visage est à la fois le maître, l'aimé, la veuve et l'orphelin, parce que c'est une apparition sui generis. Et par conséquent, le voir comme la veuve et l'orphelin, le maître, et en même temps l'aimer, c'est se refuser à ces oppositions, en comprenant bien ce qu'il peut y avoir de spécifique. Il y a des proximités qui sont des distances, il y a des distances qui sont des proximités sur un mode propre, et le mode précisément adapté à la personne à qui on veut se rapprocher. Donc, il me semble que là, c'est vraiment ces différentes guises sont une manière d'approcher de la manière la plus précise la singularité de l'événement d'autrui, qui ne se laisse pas réduire à des oppositions.
François-David Sebar.
Non, c'est vrai que la question est extrêmement compliquée. Elle l'est d'autant si effectivement on s'engage dans une typologie. D'ailleurs, je rajouterais à la typologie, on pourrait rajouter, vous avez rappelé l'aimer au sens quand la mort d'autrui m'importe plus que la mienne, le maître, la veuve et l'orphelin. Il y a aussi l'aimer dans l'amour érotique, qui est bon avec
oui, c'est justement dans le temps et l'autre,
et où le visage est justement pris. pris dans ce qui le compromet, mais le hausse à proportion qu'il est compromis dans la chair et l'érotisme, ce qui d'ailleurs, inversement, fait que l'érotisme n'est pas la pornographie, mais l'érotisme parce qu'il est déjà habité par l'éthique. Alors, une manière de s'en sortir, ce serait de pas essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en commun entre toutes ces catégories et de voir si elles peuvent être rassemblées dans une catégorie plus générale, mais de rappeler qu'effectivement ce sont des descriptions d'expériences, des descriptions de situations où toujours retentit, dans toutes retentit effectivement cette mise en question radicale. Alors ensuite, elle se pluralise, elle se diversifie, mais toujours retentit cette mise en question radicale, l'aimer, que ce soit l'amour sans concupiscence ou l'amour avec concupiscence, le maître, la veuve, l'orphelin, toujours retentit le visage. Et d'ailleurs, on pourrait même troubler, vous disiez, il y a plusieurs catégories, mais on pourrait troubler les bords de cette catégorie. L'animal fait-il visage? Où commence, où s'arrête un visage? C'est vrai que bon, ça sont des questions que nous adressent.
Oui, c'est des questions qu'on peut se poser, en effet.
Non, en tout cas, c'est infiniment plus complexe et subtil que des pensées qui se disent complexes, si je puis dire. Et par conséquent, ce qui est très étrange, c'est que la simplification publicitaire de Lévinas contredit exactement son extrême complexité, son extrême articulation, le sens infini de la nuance. Si vous voulez, c'est exactement comme Platon, qui est infiniment subtil et beaucoup plus subtil que les plus subtils commentateurs.
Alors, puisque vous avez parlé de l'éros, je citerai le chapitre ou le paragraphe Phénoménologie de l'éros, dans Totalité infinie, où Lévinas dit « La caresse consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s'échappe sans cesse de sa forme. » Il parle de manière, je trouve, magnifique, érotique en réalité, de la virginité à jamais inviolée du féminin, puisque le découvert ne perd pas dans la découverte son mystère, le caché ne se dévoile pas, la nuit ne se disperse pas, la découverte profanation se tient dans la pudeur, fût-ce sous les espèces de l'impudeur, le clandestin découvert n'acquiert pas le statut du dévoilé. Je trouve qu'il approche quelque chose, en effet, de ce que peut être la découverte de la femme dans l'érotisme. Mais si je m'interrogeais sur la validité de cette typologie, c'est que la semaine dernière, j'ai fait une émission autour de l'Alzheimer avec Michel Malherbe et Jean-Claude Amezen. Michel Malherbe a écrit un livre sur l'Alzheimer. Et il convoque la pensée de Lévinas pour comprendre ce qui se passe dans son rapport lui-même avec sa propre femme. Et c'est très intéressant parce que, justement, le visage d'un malade atteint d'Alzheimer reste évidemment un visage. Il est totalement désarmé, mais en même temps, il est totalement déshabité, puisque précisément, il perd toute autorité, toute magistrature possible, si vous voulez. Il y a quelque chose là, d'où la difficulté extraordinaire où est Michel Malherbe qui dit, on dit, est-ce qu'elle me reconnaît? Mais la question c'est, est-ce que moi-même je la reconnais? Et est-ce que moi-même je la reconnais comme autre? Puisque l'autre, c'est celui dont le visage excède sans cesse la forme qu'il me laisse. Il y a une transcendance. Mais là non, cette transcendance disparaît complètement. Donc là, on voit se dissocier complètement la faiblesse et l'autorité sous lesquelles Lévinas pense le visage. Donc, vous voyez, c'est une expérience qui me semble remettre en cause sa propre phénoménologie.
Je dirais
peut-être pas.
Je dirais tout de même que la force du visage ne lui vient pas de la personne qui l'habite, si je puis dire. Lévinas y insiste, il n'y a personne derrière. On est en phénoménologie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser que le phénomène, celui du visage, dissimule ou laisse apparaître quelqu'un qui serait derrière. À aucun moment, Lévinas ne dit « le visage, c'est l'apparaître d'une conscience qui est à l'arrière-fond », comme si le pouvoir du visage lui venait de cette magistrature qui serait en arrière comme une espèce de noumène kantien. Il y a vraiment personne derrière, donc le visage continue d'en imposer. Je n'ai malheureusement pas encore lu le livre de Michel Malherbe, mais je me demande, pour l'avoir entendu sur cette antenne justement, si le visage de la personne atteinte d'Alzheimer n'est pas précisément encore toujours un visage, c'est-à-dire un appel au meurtre, parce qu'il y a, je crois, de l'agacement devant, de la difficulté à vivre cette personne malade, mais d'un autre côté, il y a la nécessité d'en prendre toujours soin.
Oui, bien sûr. Donc, mais quand il dit le visage, Lévinas, c'est présence vivante, il est expression. Que faire ? face à un dénuement qui est une totale inexpressivité.
Mais ce dénuement impose justement qu'on en prenne soin. Et c'est son inexpressivité, paradoxalement, qui demande qu'on en prenne soin. C'est-à-dire que le visage ne dit pas « protège-moi parce que sinon, etc. » Le visage dit « je ne suis pas en mesure de le faire moi-même, je n'y peux rien, je ne peux rien et je ne dis rien, donc fais-le pour moi s'il te plaît. » Et c'est là que ça commence.
Oui, alors je pense que ça nous renvoie vers un vrai problème qui est... à partir de quand, effectivement, où commence ou finit un visage? Et cette question, elle se déploie dans plusieurs directions. Et effectivement, j'aurais tendance à dire, Dan Harbib avait tout à fait raison de souligner, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un derrière le visage qui s'exprimerait au travers des lucarnes, de la lucarne, par exemple, du regard, que le visage fait visage. Le visage fait visage en s'imposant à moi comme tel. J'aurais tendance à penser qu'effectivement, dans mon rapport au malade d'Alzheimer, on est effectivement au point de défaillance du visage, mais qui l'atteste encore. Mmh. Effectivement, quand il n'y aura plus du tout de visage, la relation se sera complètement défaite. On sera vers quelque chose comme une vie nue, s'il reste encore un peu de vie. Voilà. Mais une vie nue, pas au sens de Lévinas, une vie nue au sens contraire, qui est d'un fonctionnement biologique qui continue. Bon. Il y a deux nudités, si je puis dire. La nudité qui nous ramène au biologique, et puis la nudité, l'authentique nudité du visage.
Moi, l'authentique nudité, mot.
Un dernier mot. Enfin, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais Lévinas, pour le visage, quand même, évoque les catégories bibliques de veuve, d'orphelin. On pourrait peut-être ajouter le malade. Je veux dire, ce sont toujours des figures paranormales, si je puis dire. C'est-à-dire des figures de marginalité. La veuve et l'orphelin dans l'univers biblique.
Merci beaucoup Dan Harbib, merci François-David Seba. Je donne les titres de vos livres. Dan Harbib, La lucidité de l'éthique, étude sur Lévinas, publié aux éditions Hermann. François-David Seba, Lévinas et le contemporain, sous-titré précisément Les préoccupations de l'heure, chez un éditeur qui porte un très beau nom, Les solidaires intempestifs. Toutes les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 3 ans. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.